c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre commence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui, au sommaire, début du mois de Ramadan, les prix montent sur les marchés de Bamako. Qui sont les vengeurs du delta du Niger? Nouveau groupe armé au Nigeria. Alerte inondation au Niger alors que la saison des pluies commence. Nouvelle épidémie de grippe aviaire au Cameroun. Enfin, les réfugiés soudanais au Tchad passent aussi le bac. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Le Mali, à l'instar de nombreux pays musulmans, a débuté le mois de Ramadan lundi dernier. Ce mois saint de la religion musulmane, qui doit être un mois de solidarité, d'entraide et de communion, est pour certains le mois le plus difficile. Et cela à cause de la flambée des prix des denrées de première nécessité. Pour se rendre compte, notre correspondant Kassim Traoré a fait un tour dans certains marchés de Bamako.
Dans les normes, on regarde peut-être vers le 19h, 18h, mais on nous a informé jusqu'à 2h du matin. Bon, à propos de ça, je ne suis pas trop satisfait. Je suis en jeûne. Parce que quand on me dit qu'on a appelé la lune, j'étais prêt pour le jeûne.
Conséquence de cette observation tardive de la lune, certains n'ont pu jeûner, comme Al-Gassimou Bari, Tailleur.
Je me suis réveillé matin, j'ai entendu à Karem, je n'étais pas prêt.
Les jeunes chez les musulmans recommandent certaines restrictions, mais qui sont synonymes de partage.
La soumission et l'entraide entre nous-mêmes, chercher la bénédiction des uns des autres. Les gens cherchent Dieu très loin. Dieu, c'est notre voisin, c'est toi, c'est moi. Nous essayons de compliquer les choses en nous rendant les uns les autres la vie plus chère. Je pense que on passe un tout petit peu à côté de l'objectif même du mois de Ramadan.
Dans certains marchés de Bamako, les prix des denrées de première nécessité ont pris de l'ascenseur.
Non, le prix est augmenté, très augmenté même. Ça aussi, les commerçants, ils ont là à nous tirer. Même le sucre là, ils ont augmenté. Avant, ce n'était pas 500 et puis 550, mais actuellement, ils ont augmenté ça aussi. Donc, il faut qu'on voit aussi ensemble aussi à discuter. Ils n'ont qu'à diminuer pour qu'on puisse acheter ces trucs là.
J'ai constaté que tout est cher, quoi. L'oignon, la viande, l'huile, etc., etc. Tout est devenu intouchable.
Au niveau de notre boutique, j'ai remarqué qu'ils avaient augmenté les prix. Mais il y avait les contrôleurs de l'État qui ont passé, qui ont aperçu ça. Ils ont convoqué, ils ont fermé la boutique et convoqué ces gens-là. Mais le contrôle ne se fait pas partout, dans tous les mêmes endroits, normalement.
Le mois de Ramadan au Mali est devenu le mois le plus cher, alors que ça devrait être le contraire. Tout cela se passe au vu eux aussi du gouvernement qui devrait fixer de commun accord les prix des denrées de première nécessité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM. Le sud-est du Nigeria, région pétrolière, est attaqué depuis plusieurs mois par un nouveau groupe armé, les NDA, ou Niger Delta Avengers, traduisez les vengeurs du delta du Niger. Mais qui sont ces nouveaux rebelles ? Élément de réponse avec le professeur Asho Akakuru de l'université de Port-Harcourt.
On croit qu'il s'agit encore de ces groupuscules qui ont existé depuis fort longtemps dans le delta du Nigeria, qui revendiquent, je ne sais pas, parfois un état parfois de plus bas de pétrole, etc., et qui veulent le contrôle de leurs ressources. Donc c'est un peu confus puisqu'il y a quand même des tendances un peu différentes.
Vu de l'extérieur, on a l'impression il rappelle en tout cas les rebelles du Mende. Est-ce qu'il y a un lien direct entre ces groupes-là?
Selon ce que l'on dit, on ne sait pas au juste. Il est fort possible qu'il y ait de liens entre ce groupe. Mais ce qui est vrai, c'est que le problème fondamental, c'est la structure du pays. Que certains gens se sentent déniés de ressources de leur région. Ils sont sous-développés, même si parfois ce sous-développement peut venir de certains gens de la région qui sont au pouvoir. pouvoir. Mais le fait reste pour la majorité des gens qui pensent qu'il y a quand même une nécessité urgente de restructurer le Nigeria. Le système actuel favorise des gens qui ne produisent pas tellement les ressources du pays.
Est-ce qu'il y a un lien aussi avec les revendications des indépendantistes, des séparatistes qui veulent recréer un état du Biafra?
Je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu simpliste de penser qu'il y a un lien viscéral entre les deux mouvements qui peuvent à un certain moment se rejoindre. Mais le fait reste que c'est le même problème de structure du Nigeria que, par exemple, du côté de Biafra, les Igbo, ce sont hors de jeu politique nigérien, alors que c'est un groupe ethnique qui est important. Il semble que dans la répartition des biens du pays, ils sont des laissés pour compte. Ils ne sont pas préparés à accepter.
Qu'est-ce qui alimente ces rébellions à répétition dans cette zone du pays? Qu'est-ce qui fait que les causes semblent aussi profondes?
Tout le monde sait qu'il y a quand même un déséquilibre dans notre pays. La réalité réside, malgré ce que l'on dit, il faut revoir cette structure. Selon ce que je lis dans les journaux aujourd'hui, les gens trouvaient du côté de Biafra, etc., les discours présidentiels, etc., qu'il y a une approche trop simpliste et militariste. Je ne crois pas que le gouvernement fédéral puisse mener une guerre contre tous ces gens. Ça sera catastrophique. Ça va détruire notre pays et créer des problèmes sous-régionaux pour le Nigeria.
Le professeur Asho Akakuru de l'université de Port-Harcourt répondait aux questions de Tatiana Mosso. Début de la saison des pluies en Afrique de l'Ouest inquiète les Nations Unies. L'antenne nigérienne de l'OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires à Niamey, a lancé l'alerte dans son bulletin mensuel. Au Niger, des inondations sont à craindre dans plusieurs localités du pays. Environ 105 000 personnes risquent d'être affectées cette année. Pour plus de détails, écoutons la porte-parole de l'OCHA à Niamey, Cathy Thiam.
Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'il n'y a pas plus de risques au Niger que dans les autres pays de la région. Nous disons simplement qu'il y a des risques, bien sûr, mais qu'il n'y a pas une situation d'urgence en ce moment en ce qui concerne les inondations. Nous avons alors juste attiré l'attention sur les risques d'inondation et les mesures prises par les autorités et les partenaires humanitaires dans le cadre de la prévention et de la préparation à la réponse en cas d'éventuelles inondations.
Quels sont les principaux risques posés par les inondations au Niger?
Les risques sont ceux que l'on rencontre dans presque tous les pays où il y a des zones inondables. Donc, il y a des risques que les populations soient sans abri, que les stocks de vivres, les greniers soient touchés par les inondations et que aussi les champs soient détruits, que des surfaces emblavées soient détruites, entre autres.
Alors, le Niger, ces dernières années, a payé un lourd tribut en 2015, notamment en 2012. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous voyez une dégradation de la situation?
Nous n'avons pas observé une dégradation de la situation. Et comme vous l'avez rappelé, en 2012, il y avait environ 500 000 personnes qui étaient touchées. Mais depuis lors, le nombre de personnes sinistrées a diminué de façon significative. Donc, on peut dire que des leçons ont été tirées de la situation de 2012 et que les mesures prises par les autorités et soutenues par les organisations humanitaires ont quelque part porté leurs fruits.
Est-ce que vous avez des recommandations, notamment pour les habitants, avec cette nouvelle saison des pluies qui commence?
Alors, il y a des recommandations qui ont été faites par les autorités en direction des populations qui vivent sur les sites inondables. Et je crois que si elles sont respectées, on pourrait atténuer ces risques d'inondation inhérents à la saison des pluies.
Et concrètement, par exemple, ça se traduirait comment?
Il y a plusieurs mesures. Peut-être les populations qui vivent dans ces zones pourraient se déplacer vers d'autres où elles seraient plus en sécurité, plus à l'abri. Alors là, je peux vous dire aussi que le gouvernement du Niger, avec les acteurs humanitaires, ont mis en place un plan de contingence qui analyse bien sûr les risques, qui fait une évaluation de la population qui pourrait être affectée en cas d'inondation. Et des mesures ont été prises pour mobiliser rapidement des ressources afin de porter l'assistance nécessaire aux personnes qui pourraient en avoir besoin.
Cathy Thiam, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, à Niamey, au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Les responsables camerounais ont annoncé une forte mortalité de volailles dans le pays. Après Yaoundé au centre, de nouveaux cas de grippe aviaire ont été déclarés à Ebolova dans le sud et à Bafoussam dans l'ouest. Plus de 60 000 poulets ont déjà été tués depuis le 22 mai après la découverte du virus au complexe agricole de Mvangbetsi, près de Yaoundé, la capitale. Écoutons le reportage de Moki Edwin Kinzeka.
Le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonga Augustin, le virus a été déclaré dans deux fermes dans lesquelles plus de 2000 volailles ont été déclarées mortes. Awafonga Augustin annonce que le reste du cheptel sera abattu, tandis que l'accès dans les zones infectées est désormais interdit. Il annonce certaines mesures déjà prises pour éviter la propagation de ces virus.
Nous avons reçu des instructions provenant du ministre que rien ne sort, rien n'entre. Donc rien ne sort de la région de l'Ouest en direction de Yaoundé et du côté du Gabon, du côté de la Guinée équatoriale, du côté de l'extrême nord et même du côté du Tchad. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour vous protéger et pour protéger ces marchés pour qu'il n'y ait pas un bouleversement négatif sur le terrain.
Plus de 60% des volailles au Cameroun sont produits à Bafoussam. Le docteur Idrissou Babetek, délégué régional d'élevage de l'Ouest Cameroun, annonce la désinfectation de tous les poulaillers et marchés de poulets.
Nous faisons de la sensibilisation au niveau des fermiers pour qu'ils appliquent strictement les mesures de biosécurité. Nous avons pris des mesures pour interdire tout mouvement de volailles. Nous avons des agents sur le terrain qui sillonnent les fermes quotidiennement.
Les premiers cas ont été déclarés le 22 mai à Yaoundé. Pour éviter la propagation de ces virus, les pays voisins tels que le Gabon et la Guinée ont interdit la vente des volailles camerounaises dans leur territoire. Après la découverte de ce virus, les prix ont chuté de 70%. Et aujourd'hui, les Camerounais qui autrefois ne pouvaient s'en procurer, comme Pierre Tagné, en trouvent leurs avantages.
Je mange sans problème. Même s'il y avait même le poulet malade, toi tu vas savoir ça comment. Parce que nous, on paye le poulet, on mange, on prépare, on met ça au feu. Hein? Dès que ça chauffe déjà, plus de 100 degrés, même les micros vont mourir, on mange, tout est cher au marché. Mais le poulet est plus moins cher par rapport aux autres viandes.
Les derniers cas de grippe aviaire ont été déclarés au Cameroun en 2008 avec environ 100 volailles mortes. Cette présente épidémie est la plus mortelle avec plus de 60 000 poulets abattus et 100 personnes suivies dans les hôpitaux pour avoir été en contact direct avec les poulets infectés. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Au Tchad, plus de 77 000 candidats, toutes séries confondues, ont présenté lundi dernier le baccalauréat de l'enseignement général et technique sur toute l'étendue du territoire national. Une centaine d'élèves réfugiés soudanais, installés dans le camp de Ouré Kassoni, situé à plus de 1000 km de la capitale tchadienne, ont participé également à l'examen avec le cursus tchadien. On fait le point avec notre correspondant André Komadjingar.
88 candidats réfugiés soudanais installés dans le camp de Ouré Kassoni, sous-préfecture de Cariari, région de l'Ennedi-Est, se lancent dans cette compétition avec le cursus tchadien pour la deuxième année consécutive. Et c'est grâce au ASR et ses partenaires qui non seulement ont pour seul mandat la protection de ces personnes vulnérables, mais aussi se préoccupent de l'éducation de celles-ci. Pour Solo Kadjangaba, manager éducation de l'IRC International Rescue Committee, malgré que les cycles moyens et secondaires soient logés dans le même bâtiment de 4 salles, par manque d'infrastructures d'accueil, les encadreurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Il y a en tout ici 509 élèves pour 4 classes, donc vous voyez, c'est un pléthore. Mais on essaie vraiment de faire le maximum pour vraiment donner aussi les meilleures conditions d'études aux élèves. En classe de terminale actuellement, nous avons 80 en série A et 8 en série D. Sur les 88, nous avons 71 filles et 17 garçons.
Pour le chef du bureau du ICR, Damjaras Bemba Diallo, le camp de Wouré Kassouni est le premier camp où le pourcentage des filles est très élevé à l'école. Voici la justification du coordonnateur terrain de l'IRC, Didier Kouziwaraï Fidèle.
Nous avons organisé vraiment des grandes sensibilisations pour que les femmes et les filles soient aussi impliquées pour la formation. Et ça contribue beaucoup plus à l'implication des filles plus que les garçons.
L'inspecteur départemental de l'éducation nationale, Damjaras Togum Kadi, explique comment il a pu concilier le deux systèmes.
Auparavant, il pensait que le système tchadien peut s'imputer sur le système soudanais. Je les avais expliqué que c'est le même système. La première année, nous avons évalué. Eux-mêmes, ils ont apprécié ce système. Et effectivement, ils veulent à ce que nous les outillons encore par des formations typiques. Je demande à ma hiérarchie, aussi bien que nos partenaires, d'intervenir de sorte que certaines salles de classe soient construites et aussi limiter la pléthore au niveau du camp.
Les élèves, quant à eux, se souhaitent bonne chance et expriment déjà ce qu'ils entendent faire comme études supérieures après l'obtention du baccalauréat.
Ils souhaitent à ce que tous ceux qui sont candidats des candidats cette année soient tous admis.
Après le bac, c'est un homme pour la faculté de médecine pour aider sa communauté.
André Koduma Dingar, de retour d'Amdjaras pour VOA Afrique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la production, Georges Léonard Sagno. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Nous nous quittons en musique avec Tikenja Fakoli et son morceau Dernier Appel. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa.
Dans cet avion, il est écrit qu'on doit arrêter de demander, de commander. Babylone donne et Babylone ordonnera toujours. Dans cet avion, il est écrit, arrêtons de tendre la main, qu'il faut travailler pour sortir ce continent du trou. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa. C'est le dernier appel du vol Africa.
Voici l'avion de nos espoirs, de l'avenir de nos gamins,
de ceux qui de leurs propres mains voudront construire demain.
Rejoins l'avion, pas de retard, je n'appelle pas pour rien.
Il est temps enfin que s'envole notre destin.
Jusque l'avion va décoller.
Mes frères, mes soeurs, vous êtes tous invités.
cet avion, pas de passeport, aucun papier n'est demandé. Seulement votre volonté de voir ce continent sauver.